l'épître de Paul aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens que nous sommes en train de lire, et j'espère que c'est un plaisir pour nous chaque fois que nous ouvrons la parole, même si ça n'est pas toujours évident de le faire, mais quand nous l'ouvrons et que nous nous plaçons devant ces mots qui sont là, nous nous rappelons que ce sont les paroles de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit a consigné, a gardé. Et donc, nous ne l'ouvrons pas comme nous ouvrons le journal, le Parisien ou autre chose. Nous l'ouvrons avec cette conscience que c'est Dieu qui parle à travers ces mots que nous avons ici. Donc, je vous invite à lire Philippiens chapitre 1, et on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 12. Écoutons la parole de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Prions. Seigneur, nous sommes devant toi dans notre faiblesse et nous implorons ta grâce, la direction de ton esprit, son illumination afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Seigneur, accorde-nous ce dont nous avons besoin encore aujourd'hui à travers ta parole et que nos cœurs puissent être changés, transformés dans l'obéissance à ta parole. Amen. Voilà, donc dans cette section qui va du verset 12 jusqu'au verset 26, l'apôtre Paul parle de sa situation. Il écrit une lettre aux Philippiens et qui s'inquiète du fait qu'il soit en prison à Rome. Et après leur avoir dit comment il prie pour eux, comment il est dans la joie à cause de leur foi, de leur participation à l'Évangile, il donne quelques nouvelles le concernant plus précisément. Mais surtout, il veut qu'il sache qu'une chose, il ne parle pas beaucoup de sa situation personnelle, mais il veut qu'il sache que l'Évangile progresse. Et c'est ce que nous avions vu la dernière fois, du verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et puis dans les versets 15 jusqu'au verset 18, il continue, on pourrait dire, sur la même pensée, en disant, tout à fait à la fin du verset 18, il dit que Christ est annoncé. Christ n'est pas moins annoncé. Et il ajoute, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et donc il veut signifier par là que, oui, il y a des situations difficiles, mais il y a une chose sur laquelle je veux que vous portiez votre attention, c'est que l'Évangile progresse et Christ est annoncé. Alors il dit, j'ai toutes les joies de me réjouir et je me réjouirai chaque fois qu'il en sera ainsi. Alors j'ai intitulé cette méditation ce matin, qui va du verset 15 jusqu'au verset 18, le service de l'Évangile et nos motivations. Le service de l'Évangile et nos motivations. Dans les versets 12 au verset 14, l'apôtre Paul parle un peu du progrès dans l'évangile au sein des difficultés qu'il a rencontrées. Et probablement, il parle de son emprisonnement et puis de tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il a été arrêté à Jérusalem, conduit. Il a eu un voyage, un naufrage, on avait vu ça la dernière fois, beaucoup de souffrances. Il avait déjà été emprisonné pendant 2 ans à Césarée. Et donc, il dit que tout cela, tout ce qui lui est arrivé, a contribué au progrès de l'évangile. Mais ici, à partir du verset 15, il parle d'un autre type de tribulation. Ce sont des tribulations qui viennent un peu de l'intérieur. Si vous regardez bien, il dit, à verset 15, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions qui bienveillantes. » Il parle de ceux qui prêchent l'Évangile, des prédicateurs de l'Évangile. Dans les premiers versets, il parlait d'une opposition à l'Évangile et à cause de cela, il y a des tribulations, mais là, il parle de tribulations qui sont dues à l'utilisation de l'Évangile. Parce qu'il y a des gens qui prêchent l'Évangile, qui prêchent Christ, dit-il. Et à la fin, on va dire du verset 18, il dit, verset 17, il dit, avec la pensée de me susciter quelle qu'affliction. Et donc, il est en train de mettre en évidence les motivations, les motifs qu'il y a parfois derrière qu'ils peuvent avoir derrière la prédication de l'Évangile. Et je voudrais voir premièrement que l'apôtre dit ici, on peut retenir cela, que des motivations différentes peuvent inspirer la prédication de l'Évangile. Des motivations différentes et opposées même peuvent inspirer la prédication de l'Évangile. Quelques-uns, dit-il, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. L'évangile, n'est-ce pas, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais l'apôtre Paul affirme ici quelque chose qui est quand même fort. Il dit, il met en évidence qu'il y a 2 catégories de personnes qui prêchent l'évangile. Il ne parle pas de personnes qui prêchent l'évangile et puis des personnes qui prêchent un faux évangile. Il parle de 2 catégories de personnes qui prêchent vraiment l'Évangile. Il y a une similitude dans leur prédication. Regardez, ils prêchent Christ, ils annoncent Christ. Il dit même que dans les 2 cas, Christ n'est pas moins annoncé. Il n'y a pas une catégorie qui annonce plus Christ que l'autre. Les deux présentent un Évangile qui est doctrinalement correct, qui est orthodoxe. Et qui certainement amène, peut-être on pourrait dire, des âmes à Christ. Paul ne leur fait aucun reproche à ces personnes qui prêchent à Christ par de mauvaises motivations. Il n'y a pas de reproche ici. Il ne dit pas qu'ils sont dans l'erreur, il ne les reprend pas. Pourquoi ? Pour la simple raison que leur message est droit. Leur message est correct. Il dit même que je me réjouis quand de la prédication qui est donnée. En d'autres lieux, Paul avait condamné fermement l'enseignement hérétique. Si vous lisez dans l'épître aux Galates, il dit même quand nous, il parle de lui-même, il dit mais quand nous-mêmes ou quand d'autres personnes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Il prononce la malédiction sur ceux qui présentent un autre évangile. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il parle des faux apôtres et il dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Il encourage même le jeune pasteur Tite à faire taire les vains discoureurs. Il dit il y a parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc quand on enseigne ce qu'on ne doit pas enseigner, quand on enseigne un faux évangile, quand on enseigne un autre évangile, Paul se dresse et il dit stop, il faut arrêter cela, catégoriquement. Mais là, dans le texte que nous avons lu, il n'y a absolument rien de tout cela. Il ne dit rien, pourquoi ? Parce que c'est un évangile de tout ce qu'il y a de plus évangélique. Ce qu'il met en évidence, ça n'est pas la qualité de ce qu'il disent, mais c'est les motifs, les raisons pour lesquelles ils prêchent l'Évangile. Et donc, on voit qu'il y a des motivations diverses, différentes et opposées qui peuvent inspirer la prédication même du vrai Évangile. Il montre donc la différence de leurs motivations. Les uns prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, avec des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter des afflictions. Et puis il dit, les autres prêchent Christ avec des dispositions bienveillantes. Ils agissent par amour et ils savent que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Les deux prêchent droitement l'Évangile du point de vue doctrinal, mais les deux ont des motivations qui sont complètement différentes. Ils ne sont pas, on va dire, animés des mêmes sentiments. Une catégorie a des sentiments purs, des motivations pures, et l'autre a des motivations impures. Alors, relevez la nature de ces motivations. Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Alors, il parle de l'envie. C'est quoi l'envie? L'envie, c'est un sentiment d'insatisfaction à la vue du succès des autres. Le terme contient ici l'idée de vouloir pas simplement ce que l'autre a, ça c'est un peu la jalousie, mais l'envie, il semble que le sens c'est vouloir déposséder l'autre de ce qui lui revient, de ce qu'il a. Et en fait, les deux vont souvent ensemble, l'envie et la jalousie, on veut déposséder l'autre de ce qu'il a et on veut aussi ce que l'autre a. Imaginez des enfants quand ils jouent avec des jouets, vous avez déjà vu cela, on voit à la fois les deux, l'envie. Ce que l'on veut, c'est ce que l'autre a. Mais si on nous donne la même chose, et parfois on voit les enfants avec les deux mêmes jouets, mais il veut exactement celui que l'autre a dans la main. Il veut lui déposséder de ce qu'il a. Et Paul dit, il y a des personnes qui prêchent un vrai évangile avec une telle motivation dans le cœur. C'est, on trouve dans l'évangile de Matthieu, où il est dit que Jésus, Pilate reconnaît que, par exemple, Jésus, c'est par envie que les sacrificateurs l'avaient livré. C'est pas qu'il avait fait quelque chose, mais il voulait le déposséder probablement de cette influence qu'il avait acquise auprès de tout le peuple. Et par envie, il le livre. L'envie est indiquée dans l'évangile comme l'œuvre de la chair, Galates 5, verset 21. Il y a beaucoup d'autres passages qui parlent de l'envie et qui nous montrent à quel point c'est un péché hideux. L'amour n'est pas envieux, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et puis il dit aussi qu'ils sont animés d'un esprit de dispute. Parfois c'est traduit esprit de rivalité. Ça fait un peu référence aux querelles qu'il peut avoir, mais le verset 17 utilise la même expression, esprit de dispute, pour traduire et traduit une autre pensée, ça traduit une ambition égoïste. Et ce terme était utilisé à l'époque, pas forcément dans le monde du Nouveau Testament, mais pour désigner ceux qui cherchent par tous les moyens possibles à atteindre une position, une ambition égoïste. Donc l'envie, bien sûr, va de pair avec la jalousie, et cela entraîne souvent l'esprit de dispute. Le but recherché dans tout cela, dit Paul, c'est de lui susciter plus d'affliction, de tribulation dans les chaînes lesquelles il se trouve déjà. C'est à peine croyable, n'est-ce pas, de penser qu'on puisse prêcher l'évangile avec de telles dispositions. Mais c'est ce qui se passe encore de nos jours. Réfléchissons nous-mêmes lorsque nous faisons les choses. C'est un appel à réfléchir à nos propres motivations ici, quand nous faisons les choses. Nous pouvons faire les choses avec de bonnes motivations ou avec de mauvaises motivations. Nous pouvons servir à l'Église avec de bonnes motivations ou avec l'envie, avec un esprit ambitieux, avec peut-être le désir même de faire du tort à d'autres. Il n'y a pas de raison pour que ces motivations-là demeurent le lot des seuls chrétiens de cette époque. Hein, ça peut être aussi le cas pour nous. Et en lisant cela, nous devons nous interroger sur nos véritables motivations. Mais Paul dit qu'il y a des gens aussi qui prêchent avec des dispositions bienveillantes, heureusement, avec un esprit qui est soumis, avec l'amour dans le cœur et avec la reconnaissance de la position que Dieu a donnée à l'apôtre Paul. Et cela nous dit, frères et sœurs, qu'il y a toujours en fait un esprit qui anime le service chrétien. Il y a toujours un esprit qui anime le service chrétien. Il y a toujours une motivation derrière chaque chose que nous faisons, chaque ministère que l'on accomplit. Nous parlons et agissons animés d'une motivation particulière. Et cette motivation peut être bonne ou elle peut être mauvaise, ici. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, par exemple, par la voix de l'apôtre Pierre, quand il parle aux pasteurs et aux prédicateurs, il dit, 1 Pierre 5, versets 2 et 3, je vous lis, il dit « Paissez », c'est-à-dire nourrissez, remplissez votre ministère de pasteur envers le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Il dit « Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et chaque fois que l'Écriture nous donne une exhortation, des choses à ne pas faire, c'est parce que naturellement c'est ce que nous faisons. Il faut le considérer comme cela. Quand il dit non comme ceci, mais comme cela, ça veut dire que nous aurons tendance à paître le troupeau par contrainte. Quand il dit de ne pas le faire pour un gain sordide, nous aurons tendance à le faire pour un gain sordide. Quand il dit de ne pas le faire comme dominant, nous aurons tendance à le faire en dominant. Et donc la parole nous montre que ici, Dieu montre que les motivations avec lesquelles on fait les choses sont extrêmement importantes. C'est pour ça que lorsque Jésus retrouve Pierre après la résurrection, il ne lui dit pas « Pierre, occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. » Qu'est-ce qu'il dit ? Pierre, m'aimes-tu ? Première question, l'état du cœur, la relation avec le Seigneur. Est-ce que tu aimes le Seigneur ? Et là, le ministère est ainsi confié. Chers frères et sœurs, la nature des motivations n'influe pas forcément. La nature des motivations n'influe pas forcément sur l'efficacité d'un ministère. On voit ici qu'il y a des motivations opposées, différentes, qui peuvent influencer un service chrétien et même la prédication de l'Évangile, parce que la nature des motivations n'influe pas forcément sur l'efficacité d'un ministère. Paul dit « Ceux-ci agissent par amour ». D'accord, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ. Voyez-vous cela ? Voilà la motivation. Animé d'un esprit de dispute, qu'est-ce qu'ils font ? Ils annoncent correctement l'Évangile. Autrement dit, la motivation n'influe pas forcément sur l'efficacité du service qui est rendu. Ceux qui sont animés d'un esprit de dispute annoncent Christ autant que les autres. Pas moins, il dit, Christ n'est pas moins annoncé. Il annonce autant que ceux qui sont animés d'un bon esprit. Et pourquoi cela ? Eh bien, la raison, c'est que la puissance réside dans l'Évangile et non dans celui qui annonce l'Évangile. Et donc, il est possible d'être animé d'une mauvaise disposition. Et si tant est que l'on annonce l'Évangile correctement, Dieu, dans sa grâce, utilise ce qui est dit pour toucher des cœurs. Mais le prédicateur, il aura des comptes à rendre à Dieu. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et pas le prédicateur de l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Et nous avons un exemple de cela, chers frères et sœurs, avec le prophète Jonas. Lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive pour qu'il prêche, qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Il fuit, il part dans une autre direction. Dieu le ramène avec une tempête, etc. Il revient et il prêche l'évangile à Ninive. Il prêche la repentance. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Cette ville, elle se repent. Jésus dit même que les gens se sont repentis à la prédication de Jonas. Mais Jonas, vous vous rappelez de l'état de son cœur? Il dit, oh, je savais que tu allais faire grâce à ce peuple. C'est pour ça que je voulais fuir. Il ne voulait pas que Dieu fasse grâce à ce peuple. Il a prêché avec une mauvaise disposition dans son cœur. Il ne voulait pas que ceux à qui il prêchait la repentance se repentent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont quand même repentis. Parce que c'est Dieu qui sauve. Et donc, le prédicateur peut avoir, celui qui sert Dieu, peut avoir dans son cœur une mauvaise motivation. Et Dieu utilise quand même le service. Parce qu'il n'est pas limité par les motivations de ses serviteurs. Quelle chose étrange, n'est-ce pas, que de savoir que l'on peut agir ainsi. Mais l'apôtre Paul révèle cela. Il dit qu'il y a des personnes qui prêchent Christ avec des motivations impures. Et c'est possible, chers frères et sœurs, d'avoir des motivations complètement opposées et de prêcher néanmoins, de servir néanmoins dans un ministère quelconque et où le ministère peut même porter du fruit. Deuxième chose que je voudrais voir ici, c'est que les réactions, plus que les actions, révèlent les véritables motivations. Les réactions, plus que les actions, révèlent nos véritables motivations. Lorsque nous voulons justifier nos motivations, nous invitons les gens à considérer nos actions. Regarde ce que je fais. Moi, je fais ceci. Moi, je dis cela. Moi, quand on me confie une tâche, je le fais correctement. Je suis quelqu'un de droit et d'entier. Je suis comme ça. Je ne fais pas les choses à demi, je ne dis pas les choses à demi. Et on appelle les gens à regarder à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on dit. Et ce qu'on est en train de chercher, par là, c'est pour dire que c'est une manière de dire, je suis comme il faut. Mes motivations sont correctes. Mais est-ce que le fait de faire quelque chose et de le faire bien est une manière suffisante de juger d'une motivation? Parce qu'on vient de lire avant. Non, est-ce que le fait de sortir chaque semaine pour distribuer des traités et des Bibles dans la rue valide que nous avons de bonnes motivations quand nous le faisons? Non. Est-ce que le fait d'être debout derrière un pupitre et de prêcher la parole valide le fait que nous sommes remplis de bonnes motivations? Non. Est-ce que le fait de servir dans n'importe quel ministère de l'Église, et même en le faisant correctement, valide que nous sommes remplis de bonnes dispositions? Non. Ce que Paul souligne dans le texte, c'est que les prédicateurs ont eu des réactions différentes. Regardez bien, il dit « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. » Ces versets indiquent, chers frères et sœurs, qu'une réaction par rapport à l'apôtre Paul et à sa venue à Rome. Regardez bien comment il dit ça. Il dit « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi dans la défense, pour la défense de l'Évangile. » Et puis ceux-là, ils agissent animés d'un esprit de dispute avec la pensée de me susciter des tribulations. Autrement dit, l'apôtre Paul dit « C'est moi le problème. » C'est moi le problème. C'est moi le problème. Les gens réagissent, les deux groupes réagissent de manière complètement différente à la venue de l'apôtre Paul à Rome. Quand quelqu'un comme Paul arrive à Rome, ça fait du bruit dans le milieu. C'est quand même pas n'importe qui. C'est un érudit, c'est un homme intelligent. Il est tranché, il a une grande expérience. Et la nouvelle de sa présence se répand comme la poudre dans la ville. De plus en plus de personnes viennent le voir. Actes chapitre 28, verset 30 dit qu'il jouissait d'une certaine liberté, bien qu'en prison, et les gens pouvaient aller et venir et lui rendre visite. Et les gens viennent le voir certainement pour lui poser des questions. On lui pose des questions sur ses voyages, on lui pose des questions sur les églises qu'il a fondées, sur sa conversion spectaculaire, les raisons de son emprisonnement, les questions doctrinales peut-être, qu'il posait peut-être aux autres, et puis avec lesquelles ils avaient du mal, peut-être ils se disent « Ah tiens, on a ici un docteur, on va peut-être lui poser cette question ». La place des rites de l'Ancien Testament sous la Nouvelle Alliance. Imaginez, vous pouvez imaginer toutes sortes de questions qu'on pouvait lui poser. Ceux qui l'ont vu reviennent et qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ils disent qu'il est gentil, son attitude est digne, même dans les chaînes, il ne se plaint jamais, il ne s'apitoie pas sur lui-même, l'évangélisation est efficace, même des gens dans la prison se sont convertis. Et puis, c'est quelque chose, vous savez, en général, qui... ne plaît pas à tout le monde. Certains sont encouragés quand ils entendent cela, mais d'autres se sentent menacés dans leur ministère par un tel personnage qui concentre, on pourrait dire, autant de capacités. Et c'est justement cette réaction, je crois, dans ces situations où l'environnement habituel change, et souvent pas en notre faveur, que nos motivations réelles se font jour. Voilà des gens qui sont installés dans une habitude, qui prêchent Christ convenablement, sans que jamais personne ne pose des questions, et quelqu'un d'autre arrive, et puis les autres ça commence à s'agglutiner autour. Et là, la situation change, parce qu'il y a des gens peut-être qui basculent tout doucement, qui apportent de l'affection à quelqu'un d'autre. Et si ces gens sont animés d'une mauvaise disposition, ils ont du mal à accepter cela. Ils ont du mal à accepter cela. Lorsque Timothée Bixby est arrivé ici, au tout début, il savait même pas encore qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, il n'avait pas encore de maison, il était encore à Bordeaux. Et je me souviens, soit il était chez nous, il prospectait juste la région autour, il m'a posé cette question très directement. Il m'a dit, est-ce que tu vois notre installation dans la région comme une menace pour l'église de Saint-Denis? Question étrange, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois notre installation dans la région comme une menace pour l'église de Saint-Denis? C'était une très bonne question, parce que c'est une question qui nous renvoie tout de suite à nous-mêmes et qui nous fait réfléchir, est-ce que je vois ça de bon oeil? Est-ce que je ne vois pas ça de bon oeil? Si je ne vois pas ça de bon oeil, pourquoi je ne vois pas de bon oeil? Ça veut dire quoi? Hein? Est-ce que j'estime que, voilà, l'église est à nous? Voyez? Et donc, bien sûr, on voit ça comme de bon oeil, on était contents, il y avait Steve qui partait, c'était... pour nous, une grâce, on voyait ça comme une grâce de Dieu, mais je trouve que la question est intéressante parce qu'elle m'a poussé à réfléchir à pourquoi je sers, pourquoi je fais ce que, comment je considère l'Église, comment je réagis s'il y a des gens de l'Église qui vont de notre côté, etc. Et c'est une bonne question pour nous. Comment est-ce qu'on réagit lorsque, on pourrait dire, le paysage évangélique ou les change autour de nous, ou quelqu'un d'autre arrive et puis... va peut-être faire quelque chose et qui va affecter notre propre ministère. Comment est-ce que je réagis à cela? Vous vous rappelez, lorsque les disciples de Jean-Baptiste viennent le voir, il y avait Jésus qui ne baptisait pas beaucoup, mais il paraît, et puis ils viennent le voir, ils disent « Rabbi, celui que qui était avec toi au Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Fais quelque chose, tu es en train de perdre ton ministère. Et Jean-Baptiste dit, moi je ne suis pas le Christ. Il dit, je suis le serviteur, je suis celui qui est venu avant, c'est lui, c'est vers lui qu'il faut aller. Il dit, moi je me réjouis de ce qu'il a du succès, comme l'apôtre Paul le fait ici. Les prédicateurs du temps de Paul, ils ont eu à faire face à un changement à cause de l'arrivée de Paul. Et il y en a qui ont vu cela comme une bénédiction parce qu'ils étaient animés de bonnes dispositions, mais d'autres qui, animés de mauvaises dispositions, ont vu ça comme une menace. Et je vous pose ces questions. Comment réagissons-nous si quelqu'un arrive et est beaucoup plus doué que nous pour une tâche, peu importe laquelle, dans l'Église? Est-ce que nous allons aimer cette personne ou est-ce que nous allons méticuleusement chercher une faute dans sa vie pour essayer de, voilà, de nous venger de cette différence, je ne sais pas comment il faudrait dire ça, de don ou le fait qu'il soit plus, mieux équipé que nous? Comment réagissons-nous si on ne nous confiait plus un ministère? Voilà, pour une raison ou pour une autre, que nous avons rempli jusque-là. Est-ce que nous dirions c'est injuste? Ou est-ce que nous sommes capables de dire je me réjouis si cela contribue au progrès de l'Évangile? Comment réagirions-nous si on nous faisait une remarque sur notre travail? Ou comment réagissons-nous si notre travail n'est même pas remarqué? On dit, ah, moi je fais ça, c'est pour le Seigneur. Mais après on se plaint, personne ne m'a jamais dit merci. C'est vrai, c'est une faute de ne pas dire merci. Mais c'est une chose de dire je fais pour le Seigneur, et puis d'attendre que ça soit vu et que je sois reconnu là-dedans. Ça veut dire que la motivation, elle n'est pas tout à fait comme elle devrait être. Comment réagissons-nous quand nos idées ne sont pas retenues? Parfois on dit des choses et puis après, voilà, on propose, on est certain que notre idée, c'est la meilleure. Et puis finalement, elle n'est pas retenue. Mais ce qu'on dit, tant mieux. Le Seigneur a permis que ça se passe comme ça, c'est certainement meilleur comme ça. Ou est-ce qu'on dit, oh, ces gens-là, ils ne savent pas. Tant pis. Tout cela nous aide à savoir quelles sont nos motivations lorsque nous faisons quelque chose. Nos réactions dans les situations difficiles, contraignantes, plus que nos actions, révèlent ce que sont véritablement nos motivations. Donc on ne peut pas, chers frères et sœurs, se baser sur ce que l'on fait pour juger de nos motivations. Il faut se baser sur comment on réagit lorsqu'il y a un changement dans ce à quoi on est toujours habitué. Lorsqu'on a plus qu'on avait. Lorsqu'il y a une critique, une contrainte, quelque chose qui vient contre nous. Cette réaction que l'on a indique beaucoup plus quelle est notre véritable motivation que ce que l'on fait régulièrement, même si on le fait bien. L'apôtre Paul, dans cette situation que nous avons lue, il dit, peu importe, il dit, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé et je me réjouis et je m'en réjouirai encore. Voilà son attitude, voilà sa réaction lorsqu'il apprend que des personnes, qu'il le sent, qu'il le voit, que des personnes prêchent Christ avec une motivation profonde de lui faire du tort. Il est déjà en prison, enchaîné. Et qu'est-ce qu'il dit quand il apprend ça? Il ne dit pas « maudit soit ces gens », il dit « je me réjouis parce qu'ils prêchent l'Évangile ». Oh, les motivations ne sont pas bonnes. Oh, ils ne m'aiment pas, d'accord. Oh, ils veulent me faire du tort, d'accord. Mais voyez-vous ça? Christ est prêché, même par ces gens-là. Et il dit, je me réjouis. Et chaque fois que l'Évangile sera prêché correctement, je me réjouirai. Je me réjouis. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a confiance dans la souveraineté de Dieu à utiliser toutes choses pour sa gloire. Il a confiance dans la souveraineté de Dieu d'utiliser toutes choses pour sa gloire. Et ça a été une attitude, on n'a pas le temps de le voir, mais une attitude de Paul tout au long de son ministère. Quelques temps après, il est en prison en train d'attendre son jugement, il aura deux procès, il y aura un premier procès, et il dira ceci à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 16, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Vous imaginez, il y avait des gens qui venaient le voir ici. Et là, voilà, maintenant, il est devant, probablement devant Néron, pense, hein, qui n'était pas un tendre. Et il dit, dans ma première défense, devant le tribunal romain, personne ne m'a assisté. Il ne dit pas que personne n'a pu être là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Il était là seul. sans aucun ami, pour pouvoir le soutenir dans ce moment difficile. Vous savez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit juste après. Il dit à Timothée, que cela ne leur soit point imputé. Voilà sa réaction. Que cela ne leur soit point imputé. C'est un homme qui a dans son cœur une saine motivation pour l'Évangile. Même lorsque tous l'abandonnent, il ne demande pas qu'il soit puni. Il demande que cela ne leur soit point imputé. C'est un homme qui a vu Étienne, rappelez-vous, quand il a gardé les vêtements des autres. Il n'était pas encore converti à l'époque, Paul. Et qu'il a vu des gens jeter des pierres contre Étienne. Et alors qu'il gardait les vêtements d'Étienne, il a entendu Étienne qui mourait sous les coups de pierre, qui disait, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » La même chose, n'est-ce pas? Et ce sont les paroles de Jésus sur la croix. Quand il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » L'esprit qui a animé Jésus est le même qui a animé Étienne, c'est le même qui anime Paul, et qui le remplit de bonnes et de saines dispositions. Qui fait que même lorsque la pression est la plus extrême contre lui, ce qui sort quand on le presse au point le plus ultime, ce qui sort, ça n'est pas de la haine contre quelqu'un, mais c'est de l'amour. Et il demande même, que cela ne leur soit pas retenu. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes, quelqu'un nous blesse ou parle mal de nous? Est-ce que nous disons que cela ne leur soit point imputé? Ou est-ce que nous colportons cela tout de suite pour dire, regardez ce qu'on m'a fait, regardez le mal que j'ai subi, je suis blessé, je souffre. Peut-être, c'est vrai. Mais quand on est rempli de bonnes dispositions qui viennent de Christ, la parole nous montre que ces personnes disent que cela ne leur soit point imputé. Pardonne-leur. Qu'importe, dit Paul, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, dit-il, et je m'en réjouirai encore. Telle est sa réaction. Et la réaction, chers frères et sœurs, plus que nos actions, révèle quelles sont nos véritables motivations. Chaque fois que vous allez réagir à une situation, rappelez-vous, ça révèle ce qu'il y a dans mon cœur, vraiment. Ne nous arrêtons pas simplement à ce que nous faisons, mais à comment nous réagissons. Et puis, troisièmement, il y a que des motivations pures sont maintenues en cherchant le succès de l'Évangile et non le nôtre. Les motivations pures sont maintenues dans le cœur en cherchant le succès de l'Évangile et non le nôtre. Certains, dit Paul, prêchent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, car ils n'ont pas placé l'Évangile, la cause de l'Évangile au centre de leur vie. Ce sont des personnes qui veulent se promouvoir elles-mêmes, parvenir à une position, être reconnues. Et leur activité semble dire que l'Évangile les préoccupe, on a l'impression, mais en fait, elles sont préoccupées par elles-mêmes et par la place qu'elles peuvent avoir. Et on peut être comme cela, c'est facile d'être comme ça, de faire, de prêcher, de chanter, de distribuer, mais en étant rempli de nous-mêmes et en voulant être vu par d'autres. C'est très, très facile. Très, très facile. Mais la parole nous montre ici que on peut maintenir des motivations pures dans notre cœur si on détourne notre pensée de nous-mêmes pour épouser la cause de l'Évangile. C'était le cas de Paul ici. Il dit, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Il dit, oui, il y a des difficultés, des gens disent des choses, des gens me veulent du tort, mais Christ est prêché. Et on voit là que c'est la cause de l'Évangile, la cause de Christ qui est la chose la plus importante pour lui. Et grâce à cela, il maintient de bonnes dispositions et même de bonnes pensées à l'égard aussi des autres. Ce qui est important, c'est que l'Évangile triomphe. C'est que Christ triomphe. Quand nous avons des conflits, des relations conflictuelles, parfois les uns avec les autres, qu'est-ce que l'on cherche souvent? On cherche souvent qui a raison et qui a tort. On veut dire, moi j'ai tort et puis lui il a raison. On prend des gens pour montrer que nous, moi j'ai raison et puis lui là-bas il a tort. Et on est dans un match et après on regarde qui c'est qui va gagner, qui sera le vainqueur, qui aura finalement raison en fin de compte. Mais dans le Seigneur, ça ne se passe jamais comme ça. La question qu'on devrait se poser, c'est comment faire pour que l'Évangile triomphe dans cette situation? Comment faire pour que l'Évangile triomphe, et non pas quelqu'un? Comment faire pour que Christ, la cause de Christ, triomphe au sein même de cette situation difficile? Et c'est exactement ce qu'était ici l'attitude de Paul. Paul n'est pas en train de dire que la motivation n'a pas d'importance, hein, quand il dit qu'importe, Christ est prêché, il n'est pas moins prêché. Mais il dit que le succès de l'évangile annoncé est un enjeu beaucoup plus important que la considération de sa propre personne. Paul n'estime pas qu'il a une clause d'exclusivité sur l'évangile. C'est moi tout seul et puis pas les autres. Non, il dit si Christ est prêché, pas de problème. Il n'a pas signé de clause d'exclusivité sur la proclamation de l'évangile. Et on l'a dit tout à l'heure, son attitude traduit vraiment sa confiance dans la souveraineté de Dieu. Quand la cause pour laquelle on combat triomphe, chers frères et sœurs, il en résulte de la joie. Et Paul est joyeux parce que la cause pour laquelle il combat, c'est l'Évangile, et l'Évangile triomphe, alors il est joyeux. Et on pourrait se poser la question, si nous voulons savoir ce qui constitue notre vrai objectif, il faut regarder à ce qui nous procure de la joie. Qu'est-ce qui nous procure de la joie, vraiment? Est-ce que lorsque les progrès spirituels sont faits dans la vie des autres, cela nous remplit de joie, ou est-ce que cela nous laisse indifférents? Est-ce que le fait que les âmes sont gagnées à Christ nous remplit de joie? Est-ce que la communion des enfants de Dieu avec les frères et sœurs, nous, c'est quelque chose qui nous remplit de joie? Posons-nous la question, qu'est-ce qui me remplit de joie? Qu'est-ce qui me suscite de la joie? Est-ce que ce sont des choses qui ont rapport avec l'Évangile? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que lorsqu'un frère, il chute un peu, bon, ça me remplit de joie parce que je dis au moins lui aussi, il est tombé, quoi. Si c'est ça qui me remplit de joie, je ne suis pas plein de bonnes dispositions. Mais si je suis dans la joie parce que je vois dans la vie des uns et des autres l'Évangile qui triomphe, eh bien, je sais que je suis plein de bonnes dispositions. Et je termine quelques conclusions, chers frères et sœurs. Ici, tout ce que nous faisons, nous devons le retenir, tout ce que nous faisons, même ce que nous faisons pour le Seigneur, peut être motivé par de bonnes ou de mauvaises disposition. Ça, il faut le retenir. Et donc, ne pas nous confier dans ce que nous faisons pour être satisfait avec nous-mêmes. Parce qu'on peut le faire avec de mauvaises dispositions. On peut être régulier au culte. Tout ce qu'il y a de plus régulier. On peut prêcher correctement tout ce qu'il y a de plus correct. On peut chanter avec la plus belle voix. On peut distribuer avec le plus gros élan qui soit. Et faire tout cela avec une mauvaise disposition. C'est possible. Dieu s'intéresse à ce que nous faisons, mais aussi à la manière et au motif derrière notre service. Il ne faut pas croire que Dieu regarde ce que j'ai fait, et puis c'est bon, si c'est bien fait, il est satisfait. Paul ne veut pas dire que les motivations ne sont pas importantes, mais il dit que et que ce qui compte, c'est prêcher Christ, peu importe. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il, en mettant cela en évidence, il dit que quelque part, Dieu regarde aussi. Il nous révèle que Dieu regarde les motivations qui sont dans le cœur. Rappelez-vous ce que Jésus faisait à un moment donné de sa vie sur terre. Il est rentré dans le temple, il s'est assis et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé comment on mettait de l'argent dans le tronc. Ce matin, il a regardé comment nous avons mis de l'argent dans le tronc. Oh, j'aurais bien fait quelque chose avec cet argent-là, mais enfin, il faut le mettre, c'est la dîme, si je ne mets pas la dîme, etc. Hop, je mets ça dans le fond, mais vraiment, il y aurait quand même autre chose, on aurait pu mieux utiliser cet argent, et puis l'église, elle en a déjà pas mal, pourquoi? Il voit tout ça, hein. Il regarde tout cela. C'est ce qu'il a fait à l'époque. Il regardait comment on mettait de l'argent dans le tronc. Okay. Et donc, il regarde comment on sert, comment on prêche, quelles sont les motivations qui sont derrière, parce que Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Et ce que Dieu cherche, ça n'est pas un donateur, c'est un adorateur. Ça n'est pas un prédicateur, c'est un adorateur. Dieu n'a chômé personne pour être prédicateur. Dieu se rachète un peuple d'adorateurs. C'est ça que Dieu cherche. Il veut des gens qui l'adorent. Après, c'est le service qui nous permet de lui rendre. Un dans un sens, un autre dans un autre sens. Mais ce que Dieu cherche, c'est des cœurs qui lui appartiennent et qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons veiller donc à nos motivations, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul lui-même, dans son ministère, il veillait sur ses motivations. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il dit ça dans Actes chapitre 24. En 1 Thessaloniciens 2:3, il dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, même thème qu'on a ce matin, ni sur la fraude. Et il dira à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous voyez, il ne dit pas veille sur ton enseignement, il ne dit pas simplement veille sur ton ministère, veille sur ta prédication, il dit d'abord veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parfois, nous veillons beaucoup sur ce que nous faisons, mais nous ne veillons pas beaucoup sur nous-mêmes. Nous veillons sur nos actions et pas sur nos réactions. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile d'avoir de bonnes actions que d'avoir de bonnes réactions. C'est beaucoup plus facile de contrôler ses actions que de contrôler ses réactions. Et Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Et lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, il rencontre les anciens de l'église d'Éphèse, il leur parle de l'église que Dieu s'est acquise par son propre sang. Il leur dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Il dit pas simplement, veillez sur l'église, il dit, veillez d'abord sur vous-même, vos motivations profondes lorsque vous servez le Seigneur. Et nous sommes tous appelés, chers frères et sœurs, à veiller sur nous-mêmes. Et puis, nous devons nous repentir et demander au Seigneur de disposer nos cœurs. Quand Dieu nous révèle sa parole, nous pousse toujours à faire un choix, à reconnaître dans notre cœur si nos motivations sont comme elles doivent être et à nous repentir. Comme David, lorsqu'il s'est repenti, dans le psaume 51, il dit ceci, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, une saine et une bonne disposition. » Ça n'est pas quelque chose que l'on a naturellement, chers frères et sœurs. Il faut l'Esprit de Dieu en nous pour que nos cœurs soient disposés tels que le Seigneur les veut. Et c'est une prière que l'enfant de Dieu doit faire. Crée en moi ce cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que nous puissions tomber sur nos genoux et prier de la sorte. Et puis, dernier point, je dirais que ce que Paul présente ici, c'est le point fondamental pour tout être humain. Il dit, Christ, l'évangile est prêché, et je me réjouis, et je m'en réjouirai encore. Ça veut dire que ça, c'est la chose capitale pour chacun ici. Et je m'adresse à ceux qui ne connaîtraient pas Christ, crucifié, qui n'auraient pas encore mis leur confiance en Jésus-Christ. C'est une invitation à se tourner vers Christ. Paul ici exprime sa joie parce qu'il sait que même prêché de cette manière, l'évangile a touché des cœurs et des personnes se sont converties, se sont tournées vers Christ. Ce n'est pas parce que c'est sa cause qu'il a épousé et puis c'est ce qu'il aime et puis il est content parce que ça se produit. Non, parce qu'il sait que c'est la chose la plus fondamentale qui soit, le fait de se tourner vers Christ. Et il dit, je me réjouis quand des cœurs se tournent vers Christ, quand l'évangile est prêché, parce que des âmes sont sorties de l'enfer et des ténèbres et sont transportées dans le royaume de la lumière. Donc je voudrais dire ce matin, si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus-Christ, aujourd'hui est le jour où il faut le faire. Ce passage nous dit que c'est la chose la plus importante que vous ayez à faire. Venez à moi, dit Jésus-Christ, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté encore et ta miséricorde dans laquelle tu nous conduis ce matin. Merci pour ta parole qui est si pure, si belle, mais qui nous révèle tellement, de manière tellement vraie, ce que nous sommes au-dedans de nous. Et nous venons avec des cœurs contrits pour te prier de nous sonder, ô Dieu, et de connaître notre cœur, de nous dire si nous sommes sur une mauvaise voie, et de nous conduire sur la voie de l'éternité. Je te prie pour chacun de tes enfants ici, afin que tu nous aides à examiner nos propres cœurs devant toi, dans le service que nous te rendons. Mais je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, afin que tu les attires, parce que c'est toi seul qui peux le faire, que tu attires leur cœur à toi. Qu'ils connaissent, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Amen.